J'apporte à votre majesté l'Italie de Vittorio Veneto. Phrase attribuée à Benito Mussolini devant le roi Victor Emmanuel III lors de sa nomination comme président du Conseil.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de la crise de 1914, l'Italie avait décidé de rester neutre. Et ce n'est que 9 mois plus tard, au mois de mai 1915, que les Italiens décident d'entrer dans la guerre. En effet, il y a eu véritablement un débat au sein de la société italienne, et y compris au sommet de l'État, sur le fait de savoir s'il était opportun de choisir l'un ou l'autre camp dans le conflit mondial. En fait, le nationalisme italien voulait terminer quelque peu le Risorgimento italophone de l'Empire austro-hongrois. Mais c'est finalement du côté des alliés que va pencher la balance parce qu'il y a eu des négociations entre ceux-ci et l'Italie et les gouvernements anglais, français, russes ont promis à l'Italie de récupérer non seulement le Trentin et l'Istrie, mais également le protectorat sur l'Albanie, la province de Dalmatie, des colonies allemandes en Afrique. Bref, le plateau était extrêmement alléchant. Et c'est donc avec ces promesses du pacte de Londres que l'Italie entre en guerre en mai 1915. Non pas qu'il n'y ait pas eu de résistance au sein de la société italienne. En particulier, le pape Benoît XV avait fait savoir son hostilité à l'entrée en guerre de l'Italie. De même, le mouvement socialiste avait violemment défendu, et avec vigueur, le principe de la non-entrée en guerre. Mais les nationalistes, les futuristes et une bonne partie de la classe politique libérale avaient fait le choix de pousser le pays dans le conflit, voulant ainsi terminer l'unité. Alors cette guerre a pesé lourd, évidemment, sur la société italienne et lui a demandé un effort humain important. Au début du mois de juillet 1915, on compte 1 556 000 hommes sous les drapeaux. Cet effectif va atteindre 3 126 000 hommes au 1er octobre 1918. C'est le général Luigi Cadorna qui a été nommé chef d'état-major et qui est chargé de mener la guerre du côté italien. Ce Piémontais, adepte d'une stricte discipline et également de l'offensive, prend plusieurs initiatives tout au long des années 1915-1916. Ainsi, en 1915, ont lieu 5 batailles de Isonzo qui font 60 000 morts chez les Italiens. La 6e bataille de Isonzo, en juillet-août 1916, permet la prise de Gorizia, mais coûte 21 000 soldats. De septembre 1916 à septembre 1917, ce sont 200 000 soldats qui trouvent la mort sur l'Isonzo. Donc en fait, la stratégie de Cadorna, de ces grandes offensives, que l'on retrouverait d'ailleurs sur le front français également, s'avoue être un échec. Son successeur, le général Diaz, lui, est adepte d'une défensive intelligente, parce qu'il a compris que les révoltes, les mutineries dans l'armée étaient liées en partie à cette stratégie frontale, mais 4000 soldats italiens ont tout de même été condamnés à mort pour actes graves d'indiscipline, voire actes de mutinerie, et sur ces 4000 condamnations, 750 ont été exécutés. Il faut voir aussi que l'économie italienne est largement touchée par la guerre. En 1918, c'est 54% du budget de l'État qui est tourné vers le conflit. Les prix sont élevés, et ceci provoque d'ailleurs des manifestations extrêmement importantes, comme celle d'août 1917 à Turin, où la répression a fait sans doute, au bas mot, une 50aine de morts. Bref, la guerre en 1918 est victorieuse. Je n'ai pas pu rentrer dans tout le détail des opérations militaires, mais la bataille de Vittorio Veneto, au début du mois de novembre 1918, vient couronner cette participation italienne à la victoire des Alliés. Il n'en reste pas moins vrai que le pays est épuisé et qu'il a une série de crises à résoudre alors que les négociations de paix débutent.
la spada, le pistole, lo schioppo con me. Allo spuntar del sole io partirò da te.
La première des crises que doit résoudre l'Italie, c'est d'abord la crise internationale liée au traité de paix, ce qu'on a pu appeler la victoire mutilée, l'expression est de Gabriele D'Annunzio. Effectivement, lors de la conférence de Paris, eh bien, l'Italie ne rentre que très peu dans le cadre de ce qui avait été prévu dans le traité de Londres, puisque, hormis le Trentin et l'Istrie, qui sont réunis à l'Italie, le reste du traité n'est pas respecté. En particulier parce que le président américain Wilson, qui n'avait jamais signé le pacte de Londres, ne se sentait pas du tout engagé par celui-ci. On a longtemps présenté cette victoire mutilée comme une des causes majeures de la montée du fascisme. À vrai dire, je doute quelque peu de cette affirmation. Il faut regarder les élections de novembre 1919. Celles-ci sont favorables aux forces neutralistes. Les socialistes progressent beaucoup, atteignant 156 députés. Parmi les députés libéraux, il y en a 75 qui sont proche de Giovanni Giolitti, qui lui-même défendait la neutralité en 1915. Et quant au parti démocrate chrétien, qui était aussi plutôt de tradition neutraliste, eh bien, il obtient une centaine de sièges. Donc, en fait, les nationalistes sont très peu représentés dans la Chambre élue en novembre 1919. Ce qui me fait dire que la victoire mutilée n'a pas été le traumatisme que l'on a cru voir au sein de la société. Beaucoup plus dangereux, sans doute, et la crise sociale qui se développe à partir de 1919. Elle se développe sur deux plans. D'abord par le phénomène des grèves, des occupations d'usines, lors de la période baptisée le Biennio Rosso, qui connaît son apogée entre le printemps 19 et l'automne 1920. On compte 1 500 000 travailleurs en grève. En 1919, ils sont un peu plus de 1 900 000 en 1920. Et cela s'accompagne par des occupations d'usines, mais également des occupations de terres par des paysans qui ont faim, F-A-I-M, de terres et qui occupent les grandes propriétés, estimant que l'Italie a besoin, comme cela avait été d'ailleurs promis en 1917, d'une grande réforme foncière qui permettrait une distribution de terres à des paysans qui en manquaient. Mais c'est là où il faut parler effectivement du fascisme, parce que cette crise économique, sociale, va favoriser un mouvement qui est né le 23 mars 1919 dans un salon d'un immeuble à Piazza San Sepolcro à Milan, et constitué à ce moment-là l'ensemble des faisceaux italiens de combat, dirigés par un homme, Benito Mussolini, qui est venu du socialisme révolutionnaire, qui s'est rallié à l'interventionnisme, c'est-à-dire à l'entrée en guerre, et qui est donc le chef de ce conglomérat de faisceaux italiens de combat. Les débuts sont très difficiles, car les élections de 1919 sont un véritable désastre. Par contre, par rapport à la crise sociale que j'évoquais tout à l'heure, les militants fascistes, les squadristi, vont progressivement apparaître comme des hommes d'ordre. Alors que le premier programme des faisceaux de combat était un programme extrêmement avancé, qu'on a pu qualifier même d'extrême gauche, avec la proclamation de la République, le vote des femmes, la confiscation des profits de guerre, etc., etc., eh bien, le second programme du Parti national fasciste, qui se constitue en novembre 1921, est beaucoup plus conservateur et volontiers retour à l'ordre. De violence fasciste va effectivement être déclenchée à partir de la deuxième moitié des années 20 et ne cessera de monter tout au long des années 21 et 22. D'autant plus que le parti fasciste ne cesse de monter également en matière d'adhésion, puisque nous atteignons les 320 000 adhérents à la fin de 1921. Parmi ces militants, si les classes populaires sont représentées, ce sont cependant les classes moyennes qui dominent. Et comme le pouvoir en place, en particulier donc le pouvoir représenté par le Parti libéral, fait preuve de faiblesse, voire même par moments de coupable tolérance vis-à-vis des agissements des militants fascistes et de la violence fasciste, eh bien le Parti fasciste va progressivement apparaître comme un acteur de plus en plus important de la vie publique italienne. Certes, il n'a que 35 députés en 1921, mais sa masse de manœuvre de militants ne cesse d'augmenter. Et comme la crise est loin d'être éradiquée à l'été 1922, on va de plus en plus envisager la possibilité d'une arrivée au pouvoir du parti fasciste. À la suite de la marche sur Rome, qui est en fait une marche de pression de la part du parti fasciste sur la capitale et sur le pouvoir pour être nommé à la tête de l'État, cette marche sur Rome, d'ailleurs, n'est pas seulement la marche de 40 000 personnes vers la capitale, mais c'est aussi la prise de contrôle des centres vitaux du pays, préfectures, mairies, gares, centres postaux. Et finalement, le 30 octobre 1922, le roi Victor Emmanuel III, refusant de signer le décret d'état de siège de Luigi Facta, le président du Conseil, décide d'appeler Benito Mussolini à la tête du gouvernement. Pour beaucoup d'Italiens, cette expérience sera relativement courte. L'affaire de quelques mois, le temps de rétablir l'ordre et de trouver une majorité stable. En fait, ce que tout le monde ignore à ce moment-là, c'est que le fascisme va rester au pouvoir un peu plus de 20 ans.